Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
C'est très sage, la laïcité, puisque ça renvoie la religion aux affaires privées. Ça préserve la vie politique de toute manifestation religieuse. C'est une loi de sagesse. Les lois laïques ne sont pas des lois d'intolérance. Ce sont des lois au contraire de tolérance. Tolérance de tous les cultes, pourquoi pas musulmans. S'il y avait des bouddhistes, on leur permettrait de mettre leur statue, leur bouddha, etc. Mais ils ne dérangent pas, tant qu'ils ne font pas de politique. Là, en l'occurrence, avec un coup de mitraillette dans les locaux de Charlie, ils ont fait de la politique. À défaut d'un discours radical athéiste et anti-religieux, il faudrait dire aux gens, mais les divisions ne passent pas entre croyants et non-croyants. Sortez-vous de ça de la tête. Les divisions, elles sont entre exploiteurs et exploités, entre les gens qui accumulent le pognon et les autres qui triment. Délibérément, les hommes politiques, y compris le Parti Socialiste d'ailleurs, ils ont utilisé la religion, les religions, pour faire diversion pour leurs responsabilités politiques et économiques et sociales.
Deuxième épisode de notre émission sur la loi de 1905 avec notre copain prof d'histoire. Salut André.
Bonjour à tous.
On repart ici vers les années 1870-1880. Ce sont des années où le monde est en révolution. On a inventé la machine à vapeur et tout ça va changer profondément la société. Avant, on avait les seigneurs et les serfs, les paysans. Et puis dans ce paysage social, qui reste certes dominé par le monde agricole, il y a de nouveaux protagonistes qui sont apparus, notamment les patrons d'usines, où on a nos fameuses machines à vapeur, qui sont le nerf de la guerre de la révolution industrielle. Nouveaux arrivés dans ce paysage aussi, les ouvriers. Et cette question cléricale, religieuse, s'inscrit aussi dans ce monde moderne.
Évidemment, la société se transforme déjà depuis le début du 19e siècle. La révolution industrielle arrive en France plus tard sans doute qu'en Angleterre et qu'en Belgique, mais à partir de la monarchie de Juillet, 1830-1848, et puis surtout du Second Empire, la France devient aussi un pays industriel. À côté de cette France rurale, il y a des centres industriels importants. Le charbon, la métallurgie, le textile, les industries mécaniques, etc. Tout cela se développe. Et en même temps se développe un prolétariat industriel, bientôt une classe ouvrière, et puis bien sûr la classe patronale s'étoffe, c'est sûr.
Et donc deux nouvelles idées, hein, du côté patronal, ce qui deviendra le libéralisme puis le néolibéralisme d'aujourd'hui, et puis du côté des ouvriers, ces nouvelles idées, les idées socialistes, et puis le syndicalisme qui va en découler.
Bon, le libéralisme est plus ancien, hein. Même avant la révolution industrielle, naît déjà le libéralisme au XVIIIe siècle. En France et en Angleterre, bien sûr, ce sont ces idées libérales qui sont, bien sûr, les idées du patronat, évidemment, de la grande bourgeoisie. Mais, bien sûr, le prolétariat naissant, la classe ouvrière naissante, elle aussi produit des discours, produit des analyses, des idéologies, etc. C'est le socialisme. On peut dire que le socialisme naît en France, d'ailleurs. Avant même le marxisme, il y a déjà un socialisme proudhonien, utopiste ou autre, qui se développe, des idées coopératistes, mutualistes, etc., qui sont déjà très importantes au milieu du siècle. Et lorsque la Commune de Paris éclate, une partie de la classe ouvrière parisienne est imprégnée de ces idées, qui sont essentiellement des idées plutôt anarchistes, proudhoniennes, bakouninines, etc., que socialistes, mais enfin c'est déjà des idées socialistes, hein. Tous ces discours naissent, se développent à partir de la question sociale et essentielle, des rapports sociaux, ou plutôt des problèmes nés de ces nouveaux rapports sociaux capitalistes, où on a une classe ouvrière très exploitée, hein, par une bourgeoisie qui s'enrichit. Quelle solution apporter à cette question sociale est essentielle? Beaucoup de solutions sont apportées, c'est pas facile à simplifier. Il y avait un christianisme social qui se développait déjà à cette époque-là, important. Avant la guerre 14-18, naît déjà le christianisme social de Marc Sangnier, le Sillon. Et il y a bien sûr essentiellement les idées socialistes qui se développent. Le socialisme marxiste, les analyses de Marx se développent assez tardivement en France, mais disons que dans les années 80, elle irrigue assez largement le socialisme naissant en France. Donc la société se diversifie, ce qui bien sûr apporte des difficultés à cette bourgeoisie. Il faut qu'elle réponde à ce défi, défi de la contestation sociale du mouvement syndical, du mouvement socialiste. Un mouvement qui se développe beaucoup aussi à l'époque, c'est l'anarchisme. Très important l'anarchisme encore à l'époque, aussi bien l'anarcho-syndicalisme dans la CGT, mais aussi l'anarchisme politique tout court. La Troisième République va avoir à affronter dans les années 80, 90 surtout, une vague d'attentats anarchistes, car il y a déjà du terrorisme à l'époque, ou du moins des adeptes de ce que l'on appelle aujourd'hui le terrorisme, c'est-à-dire l'action directe, l'attentat, l'assassinat politique, la bombe, etc. Et donc il y a des gens qui contestent la République sur sa gauche, voire sur son extrême gauche. Mais il y a aussi des gens qui contestent la République plutôt sur sa droite. Alors c'est assez complexe, parce qu'il va naître dans les années 80 une extrême droite nationaliste, très revendicative, anti-parlementaire, anti-républicaine. On est là à la naissance de ce qui est aujourd'hui le Front National, une droite qui se prétend au service du peuple et au service de la transformation contre les gros, contre les puissants, contre etc. et qui se rattache au nationalisme. Et ça naît pendant une crise politique que subit la République au moment de l'affaire de Panama et du boulangisme.
Et ces affaires, André, tu nous les as expliquées dans notre série « L'histoire des droites françaises » que vous pouvez réécouter sur notre site le www.polemix-et-la-voix-off.com. Mais ce que tu dis là, l'émergence des extrêmes droites en France, des historiens comme Eric Hobsbawm ou Zev Sternel, ont bien montré que la France est l'un des berceaux du fascisme.
C'est certain, première manifestation en quelque sorte de ce qui deviendra dans l'entre-deux-guerres le fascisme. Mussolini n'a eu qu'à puiser dans l'histoire politique de la France ses idées pour créer ce mouvement assez particulier qu'est le fascisme. Alors, quelles sont les relations que cette extrême droite, avec le combat anticlérical ? C'est en même temps indépendant et en même temps c'est lié, parce qu'il y a deux grandes crises. Là, cette République va subir deux grandes crises. La crise boulangiste, qui est une crise politique, où on réclame un régime fort, etc., contre les scandales, contre l'affairisme de la République. Et pour le nationalisme, c'est-à-dire pour la revanche contre l'Allemagne, mais en même temps la deuxième crise qui est la crise, l'affaire Dreyfus, 1890-1914. Crise extrêmement grave. Là, en revanche, il y a des liens assez étroits entre la politique anticléricale, l'anticléricalisme de la République et l'affaire Dreyfus. Parce que l'Église catholique française, dans sa majorité, va être anti-Dreyfusarde, antisémite et anti-Dreyfusarde. Un des piliers de l'anti-dreyfusisme, c'est l'Église catholique. À l'époque, le Pèlerin, c'est un journal antisémite. Le journal de l'Église catholique française est antisémite, très antisémite, et nationaliste, et anti-républicaine. Donc on voit s'agglomérer, derrière l'extrême droite anti-républicaine, tous les milieux antisémites et catholiques. À l'époque, c'est presque synonyme. Il y a un lien très 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 étroit. En même temps qu'on est anti-républicain, anti-idée de la Révolution française, on est catholique, on est antisémite et ultranationaliste. Tout ça marche ensemble.
Peut-être qu'on a un peu oublié que dans ces années 1890, en gros, un Français sur deux est antisémite.
Depuis le Moyen-Âge, cet antisémitisme était devenu folklorique. L'œil juif errant, etc. Enfin, c'était des images un peu caricaturales. Pendant la Troisième République, renaît un antisémitisme virulent, fondé sur des écrits de Drummond, Chamberlain, etc. Et cet antisémitisme est extrêmement virulent, il n'a rien à envier à l'antisémitisme autrichien, allemand, etc., ou russe de la même époque, à l'image du juif affairiste, exploiteur, etc. Et une partie du mouvement socialiste à ses débuts est sensible à ce discours. Il faudra que Jaurès et des dirigeants du Parti Socialiste se battent, s'empoignent avec les dirigeants socialistes français pour entraîner le mouvement socialiste du côté des Dreyfusards, c'est-à-dire de la défense de la justice et des idées républicaines. C'était pas simple, parce que l'image du juif, sous la commune de Paris, on a des caricatures du propriétaire de logement qui exploite l'ouvrier, et il a une tête de juif, entre guillemets, tous les poncifs de cette époque-là.
Il n'est pas du tout incompatible d'être radical socialiste et antisémite.
Non, c'est vrai. D'ailleurs, au départ, dans le boulangisme, il y a beaucoup de radicaux un peu déçus. Comme aujourd'hui, on pourrait avoir des gens de gauche déçus qui vont au Front National. Comme il y a eu beaucoup des gens de gauche déçus qui sont allés au fascisme, pas si nombreux qu'on le dit, mais enfin, dans les ligues, etc., non entre deux guerres. C'était pas simple le combat Dreyfusard contre cette extrême droite, parce que la République n'était pas indemne de critiques. De la même façon que dans l'entre-deux-guerres, la République radicale ou conservatrice n'était pas non plus sans critiques. C'est comme aujourd'hui, nous sommes Charlie, etc., mais pour autant, est-ce que nous approuvons tout ce que fait notre République et nos représentants? Donc c'est pas un combat facile, c'est un combat sur les principes. C'est un combat sur la morale politique. La gauche ne peut pas exister sans son adhésion et sans son combat avec des grands principes anti-racistes, anti-discrimination, c'est indispensable. Si la gauche perd pied dans ce combat sur les grands principes, elle disparaît. En tout cas, à l'époque, la République a tremblé, hein, parce que les milieux catholiques, anti-républicains, étaient très forts dans l'armée. Hein. On est passé à deux doigts de coup d'État. Hein. Il s'en est fallu de peu hein, que des aventuriers n'emmènent Boulanger ou d'autres traîneurs de sabre à l'Élysée, hein, quelque sorte. Hein.
À chaque coin de rue, le travailleur surpris, sur l'affiche se rue, des candidats